Bienvenue à tous nos sites. Ce matin, c'est une réunion très spéciale pour ce message. Bienvenue à tous nos sites qui sont assemblés, qui sont rassemblés dans chaque église pour visionner ce message si important pour notre église Nouvelle Vie sur chaque site. Bienvenue donc à Nouvelle Vie, bien sûr, à vous, à Longueuil. Bienvenue à Nouvelle Vie à La Prairie. Nouvelle Vie à Châteauguay, Nouvelle Vie à Drummondville, à Baie-Saint-Paul, à Lamalbe, à Sept-Îles, Nouvelle Vie en ligne. Les milliers qui nous suivent en ligne. Est-ce que d'ici à Longueuil, on peut souhaiter la bienvenue à tous nos sites qui sont rassemblés ce matin pour ce message? Notre thème ce matin, c'est la vision moisson de destinée. Au mois de mai-juin, il y a presque jour pour jour, il y a 30 ans, nous étions un petit groupe, le groupe de départ, le noyau de départ qui est de quelques couples, quelques dizaines de personnes qu'on cherchait un local pour débuter l'Église Nouvelle Vie. Et on cherchait et on regardait les locaux qui étaient, on allait voir des locaux qui nous dégoûtaient et qui étaient quand même trop chers pour nous. Et il y a un moment où on a vu un petit local, pour nous c'était grand, une possibilité de 150-200 places dans une commission scolaire à louer. Alors on a fait toutes nos démarches, on a commencé à rencontrer la commission scolaire. C'était il y a 30 ans presque jour pour jour. Et lorsqu'on a rencontré les messieurs de la commission scolaire, eux ont dit on ne pourra pas vous le louer en bas de 10 $ du pied carré. Nous on a dit, est-ce qu'on peut quand même vous faire une autre offre? Ils ont dit oui, mais soyez pas ridicule, faites pas une offre ridicule. On a dit mais non, on est des gens sérieux, on ne fait pas une offre ridicule. Et lorsque je suis retourné avec Pasteur Poirier et le petit groupe, on a essayé de faire des chiffres de budget qu'on n'avait pas. Et finalement, on a décidé de faire une offre à 3,50 $ du pied carré. Chauffé, éclairé, déneigé, climatisé. On est allé porter l'offre, puis on est allé se cacher dans le bois, jeûner et prier. Et pendant qu'on jeûnait et priait, j'étais le pasteur, mais il y avait pasteur Jocelyn qui travaillait à ce moment-là dans les douanes, il y avait pasteur Luc Poirier qui travaillait dans les banques, il y avait un des piliers de Nouvelle Vie, Raymond Paul qui était pilote d'avion pour Air Canada. On était ensemble, je pense que Luc Dumont était là. On était dans le chalet, puis on priait ensemble, puis le mercredi soir, on savait que c'est là qu'ils vont faire le vote, et on s'est mis à prier. Et toute la journée, notre ami qui était pilote d'avion, un homme hyper cartésien, avait un examen de pilote d'avion un peu plus tard. Alors, nous, on était en jeûne et prière, il priait avec nous, mais des fois, je le voyais avec son gros livre étudier son examen de pilote. Puis, c'est un gars très, très, très terre à terre, ça, Raymond. Mais ce soir-là, on commence à prier, Seigneur, c'est en ce moment qu'ils sont en train de délibérer. Alors, Seigneur, fais-nous faveur. D'un coup, Raymond se lève. Raymond Paul se lève. Il dit, arrêtez de prier. C'est déjà accompli. Avant le début, on était là la bouche ouverte, avant le commencement des temps et des créations, Dieu vous avait donné ce local, il sera à vous, etc., etc. Et le lendemain matin, on a eu le coup de téléphone, on l'a eu, on a eu le premier local, on était parti. Le local est rapidement devenu bien trop petit, alors on a fait une deuxième réunion. Mais il y avait à l'arrière de la salle, les deux réunions étaient pleines et les gens étaient debout. Et là, on ne savait pas quoi faire. Alors, en arrière de la salle, il y avait un espace qu'on aurait pu ajouter, un 150-200 places, mais il y avait une voûte, une immense pièce. C'était la voûte de tous les documents de la commission scolaire en acier trempé. Alors, on est allé voir la commission scolaire, on a dit, est-ce que vous pourriez peut-être faire démolir la voûte? Ils ont parti à rire, ils ont dit, ça n'a pas d'idée, combien ça peut coûter de faire ça, etc., etc., etc. Oubliez ça, la voûte est là, elle est là depuis 20 ans, elle va être là jusqu'à la fin des temps. Alors, on est revenu le dimanche un peu dépité. Le dimanche suivant, j'ai dit aux gens, il y avait des gens debout. J'ai dit aux gens, écoutez, on a demandé pour enlever la voûte, ils n'ont pas voulu enlever la voûte. Puis j'ai dit, jeune pasteur, mon premier pasteurat, j'avais 30 ans. Alors, j'ai dit, si je ne me retiendrai pas, je vous dirais, allez imposer les mains sur la voûte pour que la voûte tombe. Mais pendant que je dis ça, il y a 4-5 hommes qui se lèvent, s'en vont à l'arrière pendant que je suis en train de faire les annonces et imposent les mains sur la voûte. Seigneur, tu vas faire tomber cette voûte au nom de Jésus. Après ça, on dit, bien, retourne à la commission scolaire. Ben oui, on dit non. Retourne à la commission scolaire. J'ai préparé une liste de 8 points qui ne voulaient rien dire. Et au milieu de mes 8 points, je demandais un rendez-vous. J'ai dit, point numéro 1, 2, 3, 4. Puis, au milieu des 8 points, à propos de la voûte, on aimerait ça pouvoir la faire enlever. Le même monsieur qui avait dit non, jamais rien. Il n'a même pas levé les yeux. Il dit, oh, si vous autres qui payez, enlevez-la la voûte. Alors, et là, il y a des hommes de l'Église qui sont encore avec nous aujourd'hui, qui avaient une compagnie de construction. On a des photos avec des tracteurs, des pépines, des démolir la voûte, ajouter quelques centaines de places. On était rendu maintenant avec une salle de 300, 350 places, avec deux réunions, les mains posées sur la voûte. On cherchait un bâtiment, ça c'est en 93, 94, 96, on cherche un bâtiment, on regarde partout, il n'y a rien. Mon épouse Chantal voit dans le journal, elle voit un bâtiment, un mail commercial sur l'Antérien, avec un grand IGA qui aurait été parfait pour notre salle. Et là, on apprend que ça va se faire à l'encan. Il va y avoir un encan. Ça prend 50 000 $ pour être présent à l'encan. Alors, on prie, on appelle les gens à la générosité, on était une petite église, on ramasse le 50 000 $ Et moi, j'étais pas mal excité parce que dans mon quartier Saint-Michel, quand on avait un encan, c'était 50 cents, une pièce et demie, deux pièces. Là, c'est un autre genre d'encan. On est là, et là, tout le monde m'avait bien averti parce que l'autre, il n'y a pas de folie à faire. On n'a pas les sous, mais par la foi, notre budget total, c'est 800 000. 800 000 $ pour acheter tout ça au complet. Alors moi, je suis confiant, je suis à l'encan avec ma palette d'encan. Ça commence 100 000 $ 200 000 oh, amen. 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000. Moi, j'ai dit, OK, 800 000. Je pensais, c'est à nous. Tout à coup, un Philistin en arrière. 900 000, 1 million, 1 million 2, 1 million 2, 50, vendu. Oh, on est mort. Quel découragement. Les chrétiens m'ont découragé. J'arrive chez nous, je dis à mon épouse, c'est terrible, ça n'a pas passé. 1 million 250. Mon épouse, comme une épouse peut faire, femme de Dieu, mais mon épouse me dit, c'est pas fini cette affaire-là. Mais moi, vous, vous êtes en main, vous applaudissez parce que vous connaissez le punch, probablement. Mais moi, je suis comme, non, chérie, je commence à me pomper. Non, chérie, j'étais là. 800 000, 1 million 2, c'est fini. Non, non. Pas fini, cette affaire-là. Toutes les épouses dans cette salle, dites à votre mari à côté de vous, écoute donc ta femme, dis ça à quelqu'un à côté de vous. Tout à coup, toutes les offres au-dessus de nous, financement ne fonctionne pas. Retire son offre. On nous appelle, c'est votre offre qui est maintenue. Wow! Yeah. Il restait quelques petits détails. Un détail, c'était que le IGA où on va faire notre sanctuaire, c'est absolument besoin de ça. On est les nouveaux propriétaires. Ils ont un bail de 3 ou 4 fois 5 ans. Ils sont là pour 15-20 ans. Et nous, il faut les rencontrer pour les convaincre de s'en aller pour qu'on puisse prendre le sanctuaire en tant que nouveau propriétaire. On descend au centre-ville de Montréal, on les rencontre dans une tour, et avant qu'on dise quoi que ce soit, ils nous disent « on a une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes nos nouveaux propriétaires, on sait que vous avez un bail avec nous, on est liés envers vous pour 15 ans, pour 20 ans, mais ce magasin-là, on veut le fermer, il faut absolument qu'on sorte de là. » Alors nous, on a dit « ça va vous coûter quelque chose ». On n'avait pas le cash down nécessaire. Ils nous ont donné 100 000 $ pour qu'on puisse entrer et qu'on puisse... Ils nous ont donné 100 000 $ pour sortir, qu'on entre. Et voilà l'Église Nouvelle-Vie qui est en train de s'établir étape par étape, miraculeux. Vous devriez applaudir. En 2000, on est ici. On est sur ce terrain ici en train de préparer et faire tous les travaux de construction. Explosion des coûts de construction partout à travers le monde. L'acier, tout. Et là, les coûts sont encore. On fait un meeting après l'autre et là, le projet monte et un vendredi après-midi fatidique. On est assis dans une salle de conférence avec tous les hommes de construction, les CA qui sont là, les ingénieurs. Moi, je suis là au milieu de tout ça. Puis ils disent, c'est pas compliqué parce que l'autre, il manque 1 million. Comprends-tu? Il manque 1 million. Alors, la salle de 2200, oublie ça. Il faut la réduire à 700 ou 800. On ne peut pas faire ça, Mais non, ce n'est pas ça que la vision que Dieu a donnée. Cette salle-là va se remplir, les gars. Puis là, il y a un homme qui était là, pas méchant, super bon monsieur, d'accord avec nous. Puis il a dit, tu sais, Pasteur Claude, là, j'étais un jeune pasteur, tu sais, Pasteur Claude, l'argent ne tombe pas du ciel. On finit le mercredi après-midi. On était tellement lourd, tellement. Là, moi, je fais mes réunions dimanche matin. À cette époque-là, régulièrement, une fois par mois, je fais les deux réunions le matin. Je prends l'avion l'après-midi. Je m'en vais à New York. J'arrive après aller prêcher à Times Square Church. Je monte sur l'estrade. David Wilkerson est là. Mais j'ai même pas le temps de parler à personne. Il n'est pas au courant de rien de nous. Certainement pas de notre meeting d'ingénieurs. Et on arrive là-bas. Et les chants ont déjà commencé. J'arrive sur le stage. Je prêche ma troisième réunion de la journée. Et quand j'arrive vers la fin de la prédication, qu'est-ce qui se passe? J'y regarde. Ils sont tous rassemblés. Il rassemble ses anciens, puis il me pointe du doigt. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose de pas bien. Jésus, viens chercher ton serviteur. Fait que les réunions finies, puis je m'en vais directement vers lui. Fais ça comme ça, viens ici. Ah, ben, viens ici, toi. Alors, je m'approche. Il dit, on sait pas ce qui se passe avec vous autres, mais le Seigneur nous a mis à cœur de vous faire un don de 500 000 US. Dans ce temps-là, 500 000 US, c'était comme 700 000 et plus. Quelques mois plus tard, ils sont venus visiter une visite impromptue de la construction, ont ajouté 150 000, 200 000. Le total a été 1 million. Et sans méchanceté, je me souviens d'avoir dit à mon frère sur le comité, l'argent tombe du ciel, l'argent tombe du ciel, parce que Dieu est notre source. Je pensais que vous applaudiriez plus fort que ça. 30 ans de témoignages, 30 ans de partenariat avec vous, l'Église, le peuple de Dieu, la congrégation la plus généreuse et visionnaire du Québec et peut-être de la francophonie. Et dans la majorité de ces 30 ans, on a fait, à part la pandémie et quelques années, on a fait ce qu'on fait ce matin, un moment où on appelle l'Église entière à ce que ce matin on appelle la vision moisson de destinée. Vous avez un carton sur vos chaises. Prenez-le, trouvez-le, j'espère que vous ne l'avez pas. Montrez-le-moi à tout le monde, montrez-moi votre carton, je vois votre carton partout. Il y en a que la minute qu'ils voient un carton comme ça, ils se crispent. Oh, qu'est-ce qui va arriver le matin? Dites à la personne près de vous, ça va bien aller, dites ça à quelqu'un près de vous. Juste vous défier. Ce carton va être sur toutes les chaises. C'est un carton que vous remettez une portion. Ce n'est pas un engagement légal ou c'est une promesse qui nous aide. Voici ce que je vais semer dans le royaume de Dieu d'ici la fin de l'année. C'est une offrande spéciale à part de ce que vous donnez régulièrement sur tous les sites, à chaque personne, chaque famille. Et c'est une offrande spéciale du 30e anniversaire. On n'aura pas un autre anniversaire comme celui-là avant le 40e. C'est un moment où on s'arrête, une offrande de reconnaissance et de récolte. Une offrande où je demande à chaque personne ici et à chaque personne qui nous regarde en ligne de faire une offrande spéciale, un don spécial, un don particulier pour ce que Nouvelle Vie a signifié pour vous depuis 30 ans. Pensez-y, j'ai accepté le Seigneur à Nouvelle Vie. Mes enfants ont été touchés à Nouvelle Vie. Je suis revenu au Seigneur à Nouvelle Vie. J'ai été fortifié, j'ai été encouragé par le message, j'ai été ramené à Dieu, j'ai été restauré dans ma vision de l'Église, j'ai été aidé par les soins pastoraux, j'ai été nourri, soigné. Si je pense, Nouvelle Vie a eu cet impact dans toute ma vie. Une offrande de reconnaissance pour trois grandes sphères à notre vision dans ces prochains 30. La manière qu'on va le faire, c'est sur les prochains 30 jours du mois de juin et 30 semaines d'ici la fin de l'année pour le 30e. Mais trois grandes sphères de dons pour cette offrande spéciale, notre vision d'implantation d'églises multisites et le développement de nouvelles vies en ligne. Nos 7 sites actuels, mais aussi les sites qui sont devant nous. Encore cette semaine, 3 coups de téléphone, certains d'entre eux surprenants, de groupes de gens qui disent, et d'églises qui disent, nous voulons devenir nouvelle vie. Est-ce qu'on peut devenir nouvelle vie dans des grandes villes et des villes centrales du Québec? Nous avons besoin de votre aide parce que nos sites actuels, là je parle à tout le monde sur les sites, chacun des sites actuels, pendant la pandémie, on a passé de 3 à 7 sites. Chacun des sites, chaque travaux de construction qu'on a fait, tous les travaux ont été, tous les travaux, les contracteurs, les matériaux, les équipements techniques, tout a été 30, 40, 50 % au-delà de ce que c'était quelques années auparavant. Alors, on a besoin de votre aide maintenant pour les sites. Notre vision d'implantation d'églises multisites et le développement de nouvelles vies en ligne. Notre vision de soutien au projet de rénovation et d'agrandissement des bâtiments de l'organisme Action Nouvelle Vie. L'organisme Action Nouvelle Vie a son propre CA. L'organisme Action Nouvelle Vie a déjà commencé une campagne dans tout le parc immobilier. Ce bâtiment-là est celui qui a besoin. Il est maintenant désuet. Il n'est plus approprié pour l'ampleur de tous les besoins. Entre le mois d'avril 2022 et 2023, nous avons doublé le nombre de paniers distribués à Action Nouvelle Vie, a doublé le nombre de paniers de 1851 paniers en avril à 3758 paniers distribués, plus de 12 000 personnes par mois. Alors, on a besoin, Action Nouvelle Vie a besoin, il y a des projets en cours pour une rénovation, agrandissement d'Action Nouvelle Vie et aussi notre vision d'engagement humanitaire et missionnaire au Québec et à l'international. Au Québec, dans les territoires des Premières Nations et à l'international, Haïti, les autres nations que nous continuons à soutenir. Lorsque les nations ont un cœur usé pour pour les nations les plus pauvres. Combien savent que le cœur de Dieu n'est jamais usé et on est là pour... Alors, l'objectif est de 500 000 $ tous ensemble. Et vous avez le carton qu'on va vous demander de nous remettre simplement pour nous aider à planifier qu'est-ce que vous a été promis. Parce qu'une des choses extraordinaires avec Nouvelle Vie, c'est que dans les derniers 30 ans, lorsqu'on faisait le carton et la promesse d'engagement, plus de 90 % de tout ce qui était promis rentrait. Souvent, c'était plus. Les gens de Nouvelle Vie sont très fidèles. Et pour le 30e, on vous propose deux façons de donner. Je m'engage à faire un don unique à votre choix, au cours des 30 prochains jours, du 1er au 30 juin, on va être en campagne, 30 jours pour 30 ans, où chaque famille, chaque personne, toi en ligne ici, chacun des sites dit, voici maintenant ce que nous, on peut donner, voici ce qu'on veut donner dans le mois de juin, ou je m'engage à faire un don hebdomadaire sur les prochaines 30 semaines, alors jusqu'à la fin de l'année 2021, vous allez à don. .nouvellevie pour soutenir don.nouvellevie.com. Et puis, il y a toutes sortes d'informations qui vont vous être données sur le site, à la table des dons, sur tous les sites pendant tout le mois de juin. C'est le seul, la prédication ce matin, mais pendant le mois de juin, toutes les informations vont être données pendant toute l'année aussi. Ce matin, vous pouvez aller au comptoir des dons directement. Alors, je vous appelle à faire un don unique aujourd'hui pour les 30 ans de Nouvelle Vie, ce que Nouvelle Vie a signifié pour vous. J'appelle les donateurs généreux et en bonne position financière dans la vie. Il y a plein de gens en Nouvelle-Vie qui peuvent faire un don particulier. Et je vous appelle à dire, Seigneur, voici maintenant avec joie ce que je voudrais semer. J'appelle ceux qui ont été des donateurs fidèles, mais qui se sont relâchés. Nous avons besoin de chaque personne pour accomplir cette vision. J'appelle tous les chrétiens sur tous nos sites, tous les sites ce matin. Je vous appelle. Nous avons besoin de tous les sites, ont besoin de tous les sites. Et j'appelle aussi les pasteurs, des leaders, partout en francophonie. Il y a des pasteurs, des leaders qui disent j'ai tout après Nouvelle Vie. Nouvelle Vie était une influence, Nouvelle Vie m'a formé, Nouvelle Vie m'a développé. En ce 30e anniversaire, nous vous invitons à considérer et à tout considérer faire un don. Et à tout le monde, à chaque personne ici en ligne, je dis ne faites rien d'autre que ce que le Seigneur met sur votre cœur. Demandez à Dieu, Seigneur, ce que tu veux que je donne à cette offrande et si oui, qu'est-ce que toi tu voudrais que je puisse donner? J'appelle les dizaines de milliers qui reçoivent notre contenu gratuitement. Prédication, worship, louange, café matinaux. Vous dites, Pasteur Claude, on a reçu des centaines de courriels. Pasteur Claude, tu disais, on a traversé la pandémie avec toi en ce moment. Les quatre évangiles avec à chaque chapitre avec un message. Nouvelle Vie a signifié quelque chose pour moi. J'ai toujours reçu et maintenant, je veux semer. Je veux donner. Et quelqu'un dirait, wow, 500 000 $, c'est quand même un gros objectif. Moi, je trouve ça trop petit. Sincèrement, nous sommes tellement nombreux. Pensez-y un instant. Si les 2500 membres et adhérents réguliers sur tous nos sites de 2500 familles donnaient dans les 30 prochains jours, juste dans le mois de juin, un don de 100, de 200 ou de 300 $, il y a des milliers de personnes qui sont capables de faire ça. Ça ne changerait rien à leur vie. C'est déjà 1,5 million. Si les 2500 membres et adhérents réguliers sur tous nos sites donnaient 5 $ par semaine, d'autres, ils donneraient 10 $ par semaine, 20 $ par semaine sur le prochain 30 semaines, c'est au-delà de 1,5 million, juste ça. Si les 10 000 abonnés, toi, à l'autre côté de l'écran, va pas chercher un café tout de suite, attends-moi. Si les 10 000 abonnés à notre chaîne YouTube qui visionnent régulièrement les messages, Café Matinaux et Contenu, faisaient un don dans les 30 prochains jours, vous imaginez? Un don unique de 100 $, un don unique de 200 $, 300 $, c'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 3 millions. Les 10 000 abonnés à notre chaîne YouTube donnent 5 $ par semaine. Cet objectif-là, il n'est qu'un point de départ parce que je crois que c'est pas le montant qui compte, c'est pas le montant, c'est pas la somme qui compte, c'est le sacrifice de chacun à sa mesure. Lorsqu'on a ouvert les premiers mois, je pense vraiment que c'était le premier mois, première année de Nouvelle Vie, on a passé les paniers d'offrande, on était une petite congrégation. J'ai fait un appel comme celui de ce matin. Et un dimanche, ou dans la semaine, je me dis, Pasteur Claude, c'est particulier, on a deux affaires dans l'offrande qu'on ne comprend pas trop. Là. Il y a quelqu'un qui a mis une alliance dans l'offrande, puis il y a quelqu'un qui a mis des clés dans l'offrande. Alors, on n'était pas assez peu nombreux que quelqu'un a dit, je vais m'informer, les pasteurs connaissaient les gens. Il y a un monsieur qui était veuf, qui recevait de l'aide et tout ça, puis qui avait donné sa vie au Seigneur à Nouvelle Vie, puis il aimait tellement Nouvelle Vie, puis là, c'est le temps d'offrande, puis lui, il vivait super serré, puis il était veuf, puis il a décidé de dire, je vais donner mon jonc. Alors, on lui a redonné son jonc, il ne voulait pas le prendre, il était comme insulté, je l'ai donné au Seigneur, je dis, le Seigneur vous le redonne, votre jonc, c'est votre cœur qui compte. Et il y avait un couple qui était là, eux, très bien nantis, en moyen, puis ils avaient un chalet qu'ils n'allaient pas depuis quelques années, et ils ne s'en occupaient pas, ils l'avaient mis à vendre plusieurs fois, ils avaient mis des pancartes, et ça ne se vendait pas. Et dans la salle, le monsieur pendant que je suis en train d'apporter le message à cette pensée, si je vendais le chalet, là, je donnerais la vente du chalet, c'est un petit chalet, je donnerais la vente du chalet pour l'avancement de l'Église, pour la construction de l'Église. Après la réunion, il dit à sa femme, si jamais le chalet se vend, le Seigneur a mis sur mon cœur qu'on va le donner à l'Église. Elle dit, grosse foi, ça fait des années, il n'y a personne qui l'achète ce chalet-là, etc. Bien, ça se pourrait, etc., etc. Dans la semaine qui suit, aucune pancarte, rien, il y a quelqu'un qui les appelle, est-ce qu'il est à vendre votre chalet? Il y en a qui ont peur à leur chalet en ce moment. Offrande volontaire dans la joie. Il a dit, oui, ta bande l'a vendu, a mis les clés dans le panier. Ce n'est pas une question de somme, c'est une question de sacrifice. Chacun qui offre ce qu'il a, ce qu'il est capable de faire dans la joie. Et ensemble, le royaume de Dieu va avancer. Voulez-vous applaudir de tout votre cœur? Notre vision, moisson de destinée. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Alors, depuis 30 ans, nous annonçons cette vision-là. Le mot « vision » dans Proverbe 28-18, c'est le mot « hazon », qui veut dire une promesse, une destinée prophétique, une connaissance prophétique. Il y a une immense différence entre un rêveur et un visionnaire. Il y a beaucoup, beaucoup de rêveurs dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de toutes sortes de choses. Le rêveur annonce et attend, et il n'admet jamais. Même lorsque ce qu'il annonce et attend n'arrive pas, il ne l'admet jamais et a juste annonce d'autres choses. Le visionnaire annonce, il se met en action, il accomplit et il n'arrête jamais. L'autre n'admet jamais, mais un vrai visionnaire sous l'Esprit de Dieu n'arrête jamais de recevoir des visions de la part de Dieu et de chercher à les accomplir. Donnez un petit coup de coude à quelqu'un près de vous et dites, on n'arrêtera jamais. Dites ça à quelqu'un près de vous. Le rêveur se rassure, se réfugie, se rationalise par des réveils futurs. Un jour, le réveil viendra. Le visionnaire est renouvelé pour de nouvelles réalisations qui sont accomplies par la foi. C'est la vision, le témoignage et l'accomplissement de la nouvelle vie depuis 30 ans. Depuis 30 ans, Habacuc 2:2-3, écrit la vision. C'est ce qu'on fait ce matin. Rends-la claire, rends-la publique, que tous puissent la connaître. Écris la vision, grave-la sur des tables, mets-la sur un carton que chacun puisse y répondre afin qu'on la lise couramment. C'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira certainement. Depuis 30 ans de vision annoncée, et de vision accomplie. Depuis nos tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous arrivez aujourd'hui, vous avez réalisé que d'année en année, une vision t'a annoncé et accomplie. Lorsqu'on regarde des photos qu'on vous montre parfois de nos débuts, celle-là, la plusieurs fois, c'est les tout débuts de Nouvelle Vie, et les gens n'imaginent pas que c'était ça. Si vous regardez la prochaine photo, elle me fait toujours sourire. La prochaine photo, c'était le 3e anniversaire de l'Église Nouvelle Vie. Celui qui construit les champs, c'est Luc Dumont. Avec sa coupe champignon, c'est très puissant. Et si vous remarquez la magnifique, on avait mis des rideaux cette année-là, c'était la nouvelle édition. Si vous remarquez la magnifique bannière, joyeux 3e anniversaire, c'était vraiment puissant. Les premiers 5 ans, on avait la même bannière, on changeait juste le chiffre. Tout début. Mais la vision marche et elle s'accomplit. La vision marche vers son terme. Alors, c'est de 50 personnes au tout début à 5000 personnes en présentiel. C'est de 1 site à 7 sites à 12 célébrations par semaine. C'est à cette vision de voir dans ces prochaines années proches de nous 10 000 personnes rassemblées sur des sites, des églises, Nouvelle Vie, partout à travers le Québec et à travers la francophonie et des centaines de milliers qui vont l'être, qui vont être touchés, qui vont une église en ligne, la nouvelle vie en ligne pour des dizaines et dizaines de milliers, avec une multitude de services, cafés matinaux, messages, worship, ressources, formations, équipe de prière, leadership en ligne. 30 ans de vision annoncée et de vision accomplie pour nous, pour l'organisme Action Nouvelle Vie. La première année, lorsque nous avons distribué pour 100 000 $, lorsque Action Nouvelle Vie, qu'on a supporté, a distribué pour 100 000 $ de nourriture, on était tellement, tellement heureux et on avait raison de l'être. Mais à ce jour, aujourd'hui, en 2023, l'organisme Action Nouvelle Vie distribue pour 23 millions de dollars à chaque année à travers tous ces programmes. Nous allons maintenant écrire ensemble la prochaine page de notre vision. C'est une vision de moisson de destinée et c'est un moment de destinée. Et dans le jeûne et la prière au début de cette année, Le Seigneur a imprégné sur mon cœur un texte puissant de l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, 20e chapitre. C'est le dernier message de Paul. Il a entre 57 et 62 ans, nous disent les historiens. Il sait qu'il ne les reverra plus. Paul, c'est son dernier message. Il sait, Dieu l'avertit. C'est un message ultime de Dieu pour lui, pour le peuple. C'est émotif, c'est passionné, c'est intense. Mais c'était aussi inspiré et surtout prophétique. Il commence en disant, acte 20, 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. » Éphèse est l'endroit où Paul a passé le plus de temps, 3 ans. L'apôtre Paul était un apôtre principalement qui avait des saisons pastorales, mais c'était principalement un apôtre. Je crois que je suis un pasteur apostolique, que ma vie entière consacrée pour l'Évangile, mais en particulier une vie entière consacrée à Nouvelle Vie. Cet appel-là, je ne l'impose pas à personne. C'est dans la volonté de Dieu pour plusieurs d'avoir une saison, une église, une autre, d'être dirigé. Mais Chantal et moi avons donné les dernières 30 ans de notre vie ici et nous croyons que la prochaine quinzaine d'années est ici pour assurer la multiplication et la succession de l'Église Nouvelle Vie. Je n'ai cessé durant ces 30 ans. Et lorsqu'on vous appelle à semer dans une vision, je veux simplement vous rappeler ce matin, juste vous rappeler ce dans quoi vous semez. C'est quoi la vision? À quoi est-ce que je sème? À quoi est-ce que tu m'appelles à donner? Et dans ce texte de Acte 20, et c'est absolument magnifique, il y a juste quelques pensées de la vision moisson de destinée pour notre prochaine saison en cette 30e année. La vision à laquelle nous vous appelons à vous donner ce matin est une vision de constance et de courage. Acte 20, Paul aux Éphésiens, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et lorsqu'ils furent arrivés, il leur dit, « Vous avez vu? De quelle manière, depuis le premier jour que je suis entré en Asie, je n'ai jamais cessé. Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Éphèse est l'endroit où Paul a resté le plus longtemps, mais les mots de Paul sont une poursuite de vie pour moi et pour toute l'équipe. Vous avez vu de quelle manière, depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé. Depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé. La vision qui nous habite et les valeurs qui nous habitent, lorsque vous semez une nouvelle vie, c'est une vision de constance et de courage. À travers les larmes, à travers les épreuves, dans le cas de Paul, c'était depuis 3 années. Dans mon cas et dans le cas de plusieurs d'entre nous, c'est 30 années, 3 décennies. Pensez-y une seconde. Ça fait 30 ans que nous vous servons. 30 ans, là, c'est 360 mois, c'est 10 950 jours, 262 800 heures, 15 768 000 minutes et 946 082 034 35 36 secondes à vous servir pendant 30 ans. Et la prochaine décennie, nos cœurs, nos âmes sont attachés à bâtir avec constance et avec courage le royaume de Dieu à Nouvelle Vie. Quelqu'un devrait dire amen. Bon, je sais, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça pour tout le monde que je reste, mais c'est la nouvelle que j'annonce. Ce qui m'a touché dans ce texte-là, c'est une poursuite de vie, c'est que vous avez vu de quelle manière, depuis le commencement, je n'ai jamais cessé. Constance, continuité. Est-ce que, Seigneur, dans mon cœur, dans mon esprit, Seigneur, c'est une poursuite, une façon de voir le ministère, un concept du ministère qui est particulier. L'apôtre Paul voyait le ministère comme un service. Et moi qui vous ai servi, c'est le mot douleuo, de doulos et de déo, et c'est servir le Seigneur dans le contexte de Paul ici, c'est vraiment le mot pour esclave. Ce n'est pas le mot serviteur comme le concierge dans un hôtel de luxe. C'était le mot pour esclave, esclave volontaire et à vie. Une vision, nous sommes fondés sur la notion que nous sommes là ultimement pour servir l'Église et non se servir de l'Église. Voilà, pour se servir de l'Église pour l'avancement de nos ministères. Nous sommes là pour vous servir, pour servir l'Église. Pas de regard en arrière, pas de compromis, pas de regret. C'est une poursuite avec laquelle je sonde mon cœur depuis 30 ans. Il faut que je ne cesse jamais d'être comme au premier jour. Que je ne cesse jamais de prier, je ne cesse jamais de jeûner. Cesse jamais après 30 ans de chercher, de pardonner, d'aimer. Cesse jamais cesser de jeûner, de prier, d'aimer, de donner, de pardonner, de prêcher passionnément sans compromis. Former, me déverser, nous, vous inspirer, mentorer, multiplier, être des serviteurs, porter des encouragements, porter la vision, travailler, étudier, communiquer, sacrifier, ne jamais cesser d'enseigner, ne jamais cesser d'exhorter, ne jamais cesser de prophétiser, ne jamais cesser de croire que Dieu a encore quelque chose de surnaturel plus grand pour nous. Depuis le premier jour, je n'ai jamais cessé de... Et dans ce message de début d'année que Dieu m'a donné dans le jeûne de la prière, il y avait en parallèle, les deux textes vont se chevaucher ce matin. Paul à Éphèse, dans Acte 20, son dernier message ultime, mais aussi David, l'homme selon le cœur de Dieu, alors qu'il appelle, comme moi je fais ce matin, alors qu'il appelle le peuple à bâtir le temple, à donner des offrandes volontaires comme nous ce matin, à bâtir le temple. David, à un moment de sa vie, lorsqu'il le fait, a déjà abattu des géants, il a déjà des grandes victoires, il a fait des choses dans la nation qui n'avaient jamais été faites auparavant. Mais Dieu dit, je t'appelle maintenant. Constance, constance et courage à rassembler le peuple, à rassembler les vaillants, ce que la Bible appelle les vaillants héros. Et à Nouvelle Vie, les vaillants héros, ce n'est pas seulement des hommes, c'est des hommes et des femmes de toutes les âges, de toutes les générations, que Dieu a rassemblés. Et David, le peuple, Dieu dit à David, le peuple a été déçu trop de fois. Je veux bâtir à travers vous un royaume pour ma gloire qui va durer, qui va être fort et qui va être inébranlable. 1 Chronique 17, 7 à 10. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois le berger de mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai repoussé les ennemis devant toi, j'ai donné une demeure à mon peuple et j'ai planté pour qu'il soit fixé et non plus agité. Pour qu'elle ne s'effondre pas cette maison comme auparavant. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Je m'identifie à David. Parce que le prophète lui dit, je t'ai pris du derrière dans le pâturage. Tu étais derrière les brebis. Pendant 10 ans avant que je devienne le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, j'ai prêché plus de 1000 fois à 50 personnes ou moins. Derrière le pâturage, avec les brebis. Sans savoir qu'il n'y aurait jamais autre chose que ça. Des journées entières, parfois des après-midi entières à marcher et à prier pour avoir 30 personnes devant moi le soir et avoir une personne combattant pour une âme à la fois, une personne à la fois, restant des heures avec les gens pour prier avec eux. 10 ans où Dieu me préparait, où Dieu façonnait à être brisé, à être fortifié, à servir sans aucun agenda, à être façonné dans le lieu secret, à être préparé, à être développé, à être épuré, à être équipé par Dieu. Il lui dit, pour que tu sois le berger de mon peuple. C'est la notion biblique du berger bâtisseur. Dans certains cercles, il y a la pensée que c'est tellement un bon pasteur, tellement un bon berger. Il n'y a pas de vision, mais c'est tellement un bon berger, il est avec les gens. Et s'il y a un bâtisseur, il y a la notion qu'il ne peut pas avoir un cœur de berger. J'aimerais vous dire que le désir de Dieu a dit à David, tu vas être un berger pour les gens, mais tu vas être un bâtisseur. Nous sommes vos pasteurs, nous sommes vos bergers avec le peuple. Depuis ces 30 années, nous sommes vos bergers, bergers avec vous, à travers vos épreuves, avec vos familles, pour celles qui prient pour avoir un enfant, pour ceux qui ont des enfants, de la dédicace à la fréquentation, à l'adolescence, au mariage, aux batailles, aux maladies, aux divorces, aux épreuves. Nous sommes des bergers, nous marchons ensemble. Consacrez-vous, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai repoussé les ennemis devant toi. Je t'ai donné une demeure, j'ai donné une demeure à mon peuple. Je veux m'arrêter ce matin et tous les sites, je veux vous joindre à moi pour dire, Seigneur, merci mon Dieu, merci Jésus, tu as marché avec nous depuis 30 ans, tu as marché devant nous, tu as repoussé. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour sa bonté, sa faveur, sa fidélité? J'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour qu'elle ne s'effondre pas comme auparavant. À l'époque où la Nouvelle Vie a commencé jusqu'à aujourd'hui, il y a dans l'œuvre de Dieu francophone plein d'œuvres qui ont eu un départ pour par la suite décevoir. Plein de chrétiens qui ne croyaient plus. Des œuvres même sur de longues années qui produisent de bons fruits pour s'effondrer. Dieu a mis dans nos cœurs une conviction, a mis dans nos cœurs cette résilience de dire, nous allons bâtir quelque chose qui est fixé et qui ne sera pas agité, qui va aller de victoire en victoire. Nous allons être un buisson ardent, pas un feu de paille qui s'éteint. Un buisson ardent où Dieu parle, un feu qui brûle et ne s'éteint pas. Quelqu'un devrait dire oui. la vision moisson de destinée, de constance et de courage. C'est ce à quoi vous semez ce matin, une vision de faire connaître Christ qui nous consume. Faire connaître Christ qui nous consume. Les versets 20 et 21 d'Acte 20. Vous savez que je n'ai rien caché ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est une marque définitive. C'est un fondement absolu de notre vision depuis 30 ans. Rien n'est plus précieux pour nous que de prêcher et d'enseigner la repentance envers Dieu, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Nos vies sont consacrées et consumées par la passion des âmes. Nous pleurons pour les âmes, nous intercédons pour les âmes, nous donnons tout pour les âmes, nous faisons des pas de foi pour les âmes, nous bâtissons pour les âmes, nous combattons pour les âmes. Il n'a jamais été possible dans la pensée de Dieu, que Dieu a mis dans la vision de l'Église de vie, il n'est pas possible. Nous ne pouvons pas, chaque année des 30 ans, nous ne pouvons pas traverser la prochaine année. Nous ne pouvons pas ne pas grandir. Ceux qui sont dans l'équipe pastorale avec moi ont entendu dire bien souvent, nous allons ou grandir ou on va mourir en essayant. Mais nous ne pouvons pas, notre vie est de voir des âmes venir au Seigneur Jésus, de voir des gens devenir des disciples, de voir des églises être implantées dans un des endroits les moins évangélisés au monde. Nous sommes là, plantés par Dieu. C'est une vision. Si quelque église, que ce soit au ministère, que ce soit, n'est pas consumée par une passion d'amener des gens à Jésus-Christ, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Si toi, comme croyant, tu es un croyant qui n'est pas saisi à prendre ta place, pour dire, moi aussi, je veux me joindre avec mes dons, mes talents, mes ressources, nous sommes passionnés de voir des âmes venir à Jésus-Christ. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Nous accomplissons ces 30 années de croissance consécutive et aussi exponentielle, telle que la parole de Dieu le prédit. La parole de Dieu prédit que dans les temps de la fin, en simultané et non en successif, il est souvent enseigné qu'il va y avoir une apostasie et après, une espèce de réveil qui viendrait. Non, non. La Bible enseigne que c'est en même temps. En même temps, sur la terre, il va y avoir des croyants, des églises vers la fin des temps qui vont être refroidis, routiniers, religieux, qui reproduisent juste les reliques de leur religion passée, très souvent retirés des gens, du monde dans lequel ils sont appelés, du monde qui sont appelés à gagner. Mentalité de bunker où on vit entre nous, on se bénit entre nous, on se parle entre nous. Et même, on l'a vu avec la pandémie, même les chrétiens de longue date qui se retirent même de l'Église. Sont passés à autre chose. Ils vont se présenter devant Dieu en disant, j'ai marché avec toi pendant 30 ans, le dernier 20 ans, j'ai fait autre chose. Mais il y a ce courant-là, il va aller de plus en plus dans cette direction-là. Mais en même temps, sur la terre, il va y avoir une église qui brûle avec un feu des âmes comme jamais, qui va gagner des âmes, qui va avancer, qui va multiplier, où l'Esprit de Dieu va être répandu. Vous devriez dire amen. Une œuvre, une vision, une moisson selon le cœur de Dieu, une vision de faire connaître Christ qui nous consume. Le 1 Chronique 17, Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toute cette vision. Et David alla se présenter devant l'Éternel et lui dit, « Qui suis-je, ô Éternel? Quelle est cette maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et maintenant, tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. » C'est ce qu'on fait ce matin. « C'est selon ton cœur que tu as accompli toutes ces choses et maintenant tu en révèles d'autres. Nous sommes consumés par la fidélité et la faveur de Dieu et le fruit de ce qu'il a bâti. » David s'est arrêté et a dit, qui suis-je pour que tu nous serves de nous comme ça? Quelle est donc cette maison? Est-ce que je peux rappeler à tous que l'œuvre de Nouvelle Vie a été bâtie par Dieu, que c'est lui? Moi, je m'arrête ce matin avec vous, partout sur les sites. Qui sommes-nous pour qu'il nous appelle à bâtir une telle maison? Quelle assurance, quelle confiance? Et si tu es quelqu'un qui considère donner pour une première fois ou qui veut recommencer à donner ou qu'en ce moment Dieu parle à ton esprit, sache que tu sèmes à un endroit qui porte un fruit éternel, qui grandit, qui porte un fruit et qui se multiplie pour Dieu. Nous sommes consumés par le futur qu'il ouvre devant nous. Il a dit, et maintenant Seigneur, il est le Dieu du maintenant, tu parles à ton serviteur des choses à venir, les choses se sont accomplies et tu en révèles de nouvelles. Dieu ouvre c'est ces implantations d'église pour nous. Dieu ouvre ses visions en ligne. Dieu ouvre la prochaine saison pour l'organisme Action de vie. Je les amène de cette façon, nous sommes consumés et même fiers et fascinés par la force surnaturelle du peuple que Dieu veut se former jusqu'à la fin. 1 Chronique 17, verset 20-21. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom, pour accomplir des miracles et des prodiges? Voilà pourquoi tu nous as rachetés d'Égypte. Il faut savoir pourquoi on a été racheté. On a été racheté pour voir son nom faire une œuvre miraculeuse à travers nous. J'utilise les mots fier et fasciné. Vous êtes voyons donc, Pasteur Claude, fier. Comment ça, fier? On n'est pas fier, on est humble. Non, je ne parle pas de fier dans un sens d'orgueilleux, de se donner des gloires personnelles. Mais croyez, comprenez ceci, il y a au cœur de la vision de Nouvelle Vie cette pensée. Nous voulons bâtir des églises partout à travers le Québec et la francophonie où tu n'auras pas honte d'aller. Parce que personne ne veut le dire. Il y a des milliers de chrétiens qui ont décidé. Ils n'ont pas dit ouvertement, mais ils ont décidé. Moi, je viens à l'église parce que j'aime Jésus, mais il n'y a pas question que j'invite quelqu'un à ça, là. Non, nous sommes fiers dans un sens de Seigneur, nous offrons notre meilleur et nous pouvons offrir une église qui ouvre ses bras à ce monde. Nous sommes même fascinés. Voyons donc, qu'est-ce que tu veux dire par fasciné? Le mot fasciné veut dire captivé par l'éclat, le reflet, ébloui par l'ascendance, la beauté et le prestige. La parole prophétique pose cette question. Y a-t-il sur la terre une seule nation comme ton peuple? Et la réponse, c'est non. Je dis à chaque site, à chaque église, à chaque personne au son de ma voix, il n'y a aucun endroit comme l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a aucun autre endroit où les âmes sont changées, où il y a des enjeux d'éternité, où les gens trouvent la vie abondante, où les gens trouvent la vie éternelle, où les gens sont pardonnés, où les gens ne sont pas jugés, où les gens peuvent être libérés de leur dépendance, où les gens peuvent être marchés dans l'abondance de ce que Dieu a pour eux. Il n'y a aucun autre endroit sur la terre que son église. À Longueuil, à chaque site, à La Prairie, à Nueva Vida, à Drummondville, à Baie-Saint-Paul, à Sept-Îles, vous qui m'écoutez en ligne, Drummondville, chaque église, ah, j'en ai oublié un, à chacune de nos églises, chaque site, les prochains sites, levez la tête. Au milieu d'une nation si ténébreuse, il y a un endroit où l'Évangile est prêché, il y a un endroit où la grâce est prêchée, il y a un endroit où les vies sont changées, il y a un endroit où les chaînes sont brisées, il y a un endroit où les morts reviennent à la vie. Vous devriez applaudir aucun autre peuple comme le peuple de Dieu. Et ça ne se fera pas par nos efforts humains. Nous allons donner tout ce que nous pouvons donner, mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce qu'on peut garder comme au premier jour, il n'a jamais cessé, seulement par la communion de l'Esprit, seulement par le Saint-Esprit. John Wesley, à 85 ans, disait, prêchait, les foules venaient l'entendre, et un revivaliste, un homme, un écrivain extraordinaire, un fondateur d'un mouvement chrétien qui touche le monde encore aujourd'hui. Et Wesley, on lui a demandé à 85 ans, comment ça se fait que les gens viennent encore vous entendre à 85 ans? Il dit, c'est très simple. Dieu me met en feu et les gens viennent me regarder brûler. La flamme est seulement possible par la communion avec le Saint-Esprit. Regardez toujours pas dans Acte 20, le verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Le verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Et maintenant, je dois aller parce que je suis lié par l'Esprit. Il y a quatre manifestations de la communion du Saint-Esprit dans cette adresse de Paul aux Éphésiens qui ne sont pas très connues ou populaires aujourd'hui. Il dit, nous sommes liés par l'Esprit, ça c'est la passion. Il dit, nous sommes liés par l'Esprit, nous sommes établis, nous sommes avertis par l'Esprit, protégés. Nous sommes établis par l'Esprit, le progrès. Et nous sommes poussés par l'Esprit. Nous sommes liés, nous sommes avertis, nous sommes établis et nous sommes poussés. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais l'œuvre, je sais que ce n'est pas des termes souvent. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui, lorsque tu leur dis, explique-moi les caractéristiques de ce que le Saint-Esprit fait pour toi. Beaucoup diraient, bien, je suis béni, j'ai été rempli de joie, j'ai été béni, j'ai été baptisé, j'ai été béni, j'ai été rempli, on s'est fait du bien, on a prophétisé, j'ai été consolé, j'ai été restauré, j'ai été guéri, j'ai été boosté. Amen, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais comprenez bien ceci. L'œuvre de Dieu qui va être durable et qui va porter un fruit doit se faire par des hommes et des femmes qui sont liés par l'Esprit, qui sont attachés par l'Esprit, qui ont un sens de responsabilité dans l'Esprit. 1 Chronique 17, 23 et 25. « Maintenant, ô Éternel, toujours David avec le temple, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur, sur cette maison, subsiste éternellement et agis selon ta parole. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu bâtirais cette maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé même prier devant toi. C'est seulement le souffle de l'Esprit qui révèle la vision et qui nous rend capables de la réclamer avec combat devant Dieu et de la répandre afin de la réaliser ensemble. C'est l'histoire de Nouvelle Vie depuis 30 ans. Dans la communion avec le Saint-Esprit, Dieu nous donne des « maintenant ». Et « maintenant voici ». Et les « maintenant » qu'il met devant nous nous semblent toujours immenses, inatteignables, impossibles humainement, mais fortifiés par son esprit, nous avançons. Et alors qu'on est lié à sa cause, lié à sa parole, lié à sa mission, lié à sa passion, lié à son cœur, alors il nous avertit, il nous protège, et alors il nous établit, et alors il nous pousse. Il nous pousse dans ce qui est pressant, dans la prochaine étape de la vision de Dieu. L'œuvre se fait par la communion avec le Saint-Esprit. Lié, averti, établi, poussé par l'Esprit. Nous avons besoin de cette moisson de destinée, ce qui a été accompli depuis 30 ans et qui va l'être dans notre prochaine décennie à laquelle je vous appelle à semer ce matin, va s'accomplir par un peuple qui est lié par l'Esprit. Lié par Dieu. J'ai un attachement pour cette œuvre. Je suis lié à mon appel, à ma mission. Je suis lié à nous sommes liés à notre salut, à notre témoignage, lié à sa parole, lié à sa maison, lié à sa grâce, lié à la confiance que si on offre devant lui ce que nous pouvons, il va pourvoir surnaturellement. La passion de l'Esprit, nous donne la passion de l'Esprit. L'Esprit nous avertit et nous protège. L'Esprit nous établit et il nous pousse. Et littéralement, le Saint-Esprit, une des grandes œuvres qu'il fait, c'est qu'il nous pousse dehors. La semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Et à la Pentecôte, la meilleure définition de ce que le Saint-Esprit a fait à la Pentecôte, le Saint-Esprit dit tout le monde dehors. Dans la chambre haute, ensemble, et le Saint-Esprit vient et les lance dans la multitude qui ont besoin du Seigneur Jésus. C'est notre vision de ville en ville. La mission, moisson de destinée, de ville en ville. Nous allons aller de ville en ville, implantant des églises. Parce que, as-tu des paroles prophétiques pour votre stratégie d'implantation de ville en ville et en ligne? Oui, absolument. Lié par l'Esprit, je vais de ville en ville, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Le Saint-Esprit n'est pas une cartomancienne qui va te donner un plan en 7 étapes parfaites 5 ans à l'avance. Je ne sais pas tout ce qui va arriver, mais as-tu au moins un sens de direction? Oui, j'ai une direction claire, une prophétie sûre de s'accomplir. Le Saint-Esprit nous avertit qu'il va y avoir de l'opposition et des tribulations. Mais le Saint-Esprit nous avertit qu'alors que nous marchons avec lui, il n'y a rien ni personne qui va empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir, l'Église de naître, l'Église de se multiplier. Une vision de nouvelles conquêtes, malgré les combats, une vision selon son cœur, je termine avec ça, de compassion qui doit continuer. Le dernier verset de Acte 20, il dit, « Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous avez dans ce texte le secret de la faveur, de la protection, de la bénédiction, de la croissance continue et renouvelée d'une nouvelle vie depuis 30 ans. C'est une marque définitive depuis notre début qui est devenue un modèle et un mouvement qui se multiplie partout dans la francophonie mondiale. Une parole de Jésus, qu'a dit lui-même, il y a plus de bonheur, il y a plus de bénédiction, il y a plus de faveur, il y a plus de joie, il y a plus d'épanouissement, il y a plus d'accomplissement à donner qu'à recevoir. Alors, le premier message que j'ai prêché lorsque l'Église a ouvert le premier dimanche, le 8 août 1993, Ésaïe 58, donne de ton pain, donne de ton vêtement, ouvre ta maison, ouvre ta main, ouvre ta main et le miraculeux va s'ouvrir. ouvre ton cœur et le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Est-ce que vous comprenez à quel point, les musiciens s'approchent, s'il vous plaît, est-ce que vous comprenez à quel point c'était révolutionnaire pour une église évangélique en 1993, et ça l'est encore pour des milliers, pour des centaines, des milliers d'églises à travers la francophonie. Notre pensée était celle-ci, voici la vision. Votre conduite et votre constance et continuité, c'est ça qui va construire à long terme. Nous sommes là, engagés à long terme, à la vie, à la mort, et c'est l'œuvre de notre vie. Nous sommes des bergers bâtisseurs. Oui, nous sommes consacrés aux brebis, mais nous, faire connaître Christ nous consume. Le Saint-Esprit nous a liés, nous avertit, nous établit, nous pousse continuellement vers une nouvelle ville, vers un nouvel endroit, vers un nouveau ministère, vers une nouvelle semence, vers une nouvelle implantation pour rencontrer les besoins à l'extérieur. Le Saint-Esprit nous met à chaque semaine dehors de notre zone de confort, de devenir un blessing club, de juste être entre nous. Il nous met dehors, même juste de notre ville, de tout ce qu'on connaît, dehors, Saint-Esprit, à la Pentecôte, liait, avertissait, établissait, poussait, pousse vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais non seulement pour leurs besoins spirituels, mais pour leurs besoins sociaux, leurs besoins humains, leurs besoins familiaux, leurs besoins dans leur dépendance, dans leur déchéance, la veuve, l'orphelin, l'immigrant, dans leur vulnérabilité, dans les abus, les injustices, les discriminations qu'ils ont vécues. L'apôtre Paul a un portrait extraordinaire. Il dit, nous travaillons, nos mains, nous pourvoyons aux besoins des gens autour de nous. Tu pourvois aux besoins de ta famille et des tiens. Et Dieu le bénit, Dieu t'appelle à le faire. Mais en même temps, ensemble, en même temps, de toutes sortes de manières, nous travaillons pour soutenir ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui sont les oubliés, ceux qui sont les plus faibles, les sans défense, les démunis. Et nous croyons de tous nos cœurs que depuis du roi David, aller l'homme selon le cœur de Dieu, à l'apôtre Paul, à toi et moi aujourd'hui en 2023, et sur tous les sites, que dans la vision et l'intentionnalité divine, celui ou celle qui va appliquer maintenant son cœur et son âme à chercher Dieu, va immanquablement se lever avec joie pour semer et bâtir sa maison. Il n'y a pas ceux qui prient, qui cherchent Dieu dans la gloire, puis ceux qui bâtissent. Si vraiment tu t'approches du cœur de Dieu, comme David a dit, appliquez-vous maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de la maison qui sera au nom de l'Éternel dans votre attachement à la maison de Dieu. Qui veut encore présenter volontairement, avec une grande joie aujourd'hui, son offrande à l'Éternel. Grande responsabilité, une grande récolte. 1 Chronique 29, 29 et 30. Les actions de David et de son peuple, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de toutes ces années. Leurs exploits et tout ce qui a été accompli de son temps, soit dans sa nation, mais aussi dans les royaumes des autres nations. Nouvelle vie, à Longueuil et en site, les premières choses se sont accomplies dans les 30 dernières années. Mais les plus grandes années et les plus grands exploits sont pour nous, sont devant nous pour l'avancement du royaume de Dieu ensemble. Et les deux textes, celui de Chronique, on bâtit la maison de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, et Paul dans un message prophétique pour l'Église de tous les temps jusqu'à toi et moi aujourd'hui, les deux ont conclu l'appel à la générosité, l'appel à la mission, l'appel à la moisson de destinée de la même façon. En 1 Chronique 17, tout de suite après avoir appelé aux offrandes, et toute l'assemblée, versets 23 et 25, toute l'assemblée s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Et le lendemain de ce jour, ils offrirent leur sacrifice. L'Éternel les éleva au plus haut degré sous les yeux de toute la nation, et le royaume fut plus éclatant que tout ce qui avait précédé. Marquer mes paroles. Nous sommes en vidéo, nous sommes en ligne, en personne avec quelques milliers de témoins. Ce 21e jour du mois de mai de l'an 2023, alors que nous allons nous lever à nouveau pour offrir nos sacrifices, Dieu va élever son nom, son Église, son royaume sous les yeux de cette nation. des nations qui vont être touchées et influencées par l'œuvre de l'Église Nouvelle Vie que Dieu nous a appelés à bâtir ensemble. La Bible nous dit que dans le livre des Chroniques, ils se sont prosternés devant l'Éternel. Et en acte 20, à la fin de son message à Éphèse, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et Luc dit, « Et nous nous embarquâmes. » Et nous nous embarquâmes directement vers. Alors, si vous me permettez, ce matin, de terminer ce message comme David l'a fait avec le peuple et comme Paul l'a fait avec les Éphésiens. Je vais vous inviter à pencher la tête avec moi, nous allons prier. Si vous êtes à l'aise de le faire, je vous inviterai à prendre le carton dans vos mains. Ce carton représente votre semence, représente votre participation, représente votre attachement les 30 dernières années et pour la moisson future. Les choses qui se sont réalisées et les choses à venir. Les choses que tu avais annoncées, que tu as accomplies, Seigneur, et les choses maintenant que tu annonces. Alors je me mets à genoux devant toi. Nous nous prosternons devant toi comme David a fait. Comme Paul et les Éphésiens ont fait. Je te prie par ton esprit de parler au cœur de chaque homme ou femme au son de ma voix, ici à Longueuil et sur chacun de nos sites et les milliers et dizaines de milliers en ligne. Rien ne peut se faire que par l'œuvre de ton esprit. C'est avec crainte et tremblement que nous nous agenouillons devant toi, mais nous nous offrons à toi. Et moi, je veux te dire, tellement imparfait, Seigneur, je ne fais aucun cas de ma vie si ce n'est que d'accomplir la course, le ministère à lequel tu nous as appelés de bâtir ton royaume ensemble, chacun avec notre portion, nos dons et nos talents, jusqu'à ton retour, dans le nom de Jésus. Et nous croyons qu'alors que nous embarquons à nouveau, dans ta mission, dans ton aventure, dans ton appel à la foi et au don, au sacrifice. Alors que nous embarquons à nouveau simplement en obéissance à ce que l'Esprit met sur nos cœurs. Nous croyons, Seigneur, que l'œuvre que tu vas faire va être pas pour notre nom, pour ton nom, va être encore plus éclatante, encore plus brillante de pierres précieuses qui vont être sauvées, baptisées, ramenées à toi, devenues disciples, appelées au ministère pour te servir. Et eux et leur famille serviront l'Éternel. Nous le déclarons prophétiquement le fait dans cette maison, dans chaque maison Nouvelle Vie, présente et future. Et en ligne par milliers, le faible dira, il est ma force, par l'esprit de puissance qui triomphe de la mort, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans sa présence? Est-ce que, si vous êtes à l'aise de le faire, vous juste présenter le carton devant Dieu comme vos vieux, comme vos cœurs qui sortent devant lui. Le chant qu'on chante est un chant prophétique, est un chant qui annonce ce que Dieu va faire, ce que Dieu va faire à travers son peuple qui s'abandonne à lui. Levons-nous et bâtissons ensemble pour la moisson de destinée, dans ce moment de destinée, dans le nom de Jésus.